Bonjour Justin Taylor.
Bonjour.
Nous sommes au Festival d'Opaque de Deauville, donc vous êtes maintenant habitué à ce festival. Alors, ça fait combien de temps que vous venez ici?
Alors, je crois que c'est la cinquième fois que je viens. Des fois c'était à Pâques, des fois c'était l'été, mais ça fait 5 ans consécutifs que je suis venu à Deauville.
Et vous avez toujours joué du clavecin ou du piano?
Alors non, justement à Deauville, c'est un peu les grandes premières à chaque fois. La première fois, c'était en 2017, à Pâques justement, le 21 avril, donc presque un an, enfin presque 5 ans jour pour jour. Et Yves Petit-Devoise m'avait justement invité pour jouer au pianoforte, ce qui était la première fois pour moi, un magnifique concerto de Mozart avec l'orchestre de Julien Chauvin. Et c'était une première expérience inoubliable pour moi, et qui s'est d'ailleurs vraiment bien passée. Et peu de temps après, Julien m'a demandé m'a proposé d'enregistrer ce concerto. Et donc voilà, c'est vraiment de Deauville en fait qu'est né ce projet. Et depuis, je suis revenu plusieurs fois en pianoforte, en clavecin aussi évidemment. Et aujourd'hui, alors c'est au clavecin, mais dans un répertoire un peu inattendu, vu que voilà, c'est un concerto de Faya pour clavecin et 6 instruments solistes en fait, qui date de 1926. Donc voilà, c'est vraiment le répertoire 20e pour clavecin qui est un peu oublié aujourd'hui.
C'est un peu un pendant avec quelques décennies de décalage du concerto de Poulenc.
Oui, absolument. Que en plus j'ai fait le mois dernier, donc c'est vrai que c'est mon petit bain de clavecin 20e. Bah c'est, en fait, on sent dans ses œuvres l'appétit qu'il y avait au tout début 20e pour voilà, ces instruments que d'un coup on redécouvrait, qui avaient été un peu mis entre parenthèses durant le 20e siècle, durant le 19e siècle, pardon. Et voilà, et d'un coup il y a eu cette envie, avec des interprètes comme Wanda Landowska, qui a un peu popularisé cet instrument à travers le monde, et ben de créer un répertoire nouveau pour ces instruments. Donc il y a Poulenc, il y a Faya, il y a Français, il y a Oana qui a écrit, enfin voilà, il y a tout un nouveau répertoire qui s'est créé. Je trouve que c'est intéressant de le défendre, parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent le clavecin comme l'instrument baroque par excellence, qui n'a pas vraiment eu de vie après 1789, alors qu'en fait, si, il y a toute une renaissance presque, à partir des années 1900 justement. Oui. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de montrer au public qu'il existe ces œuvres-là.
Parce que vous avez publié justement un disque avec Ligeti, Scarlatti.
Oui, oui. Ben c'est la même idée en fait, c'est que le clavecin est un instrument intemporel qui n'est pas bloqué dans la période baroque. Et pour le projet Scarlatti Ligeti, en fait, je voulais vraiment enregistrer du Scarlatti et montrer à quel point à son époque Scarlatti avait été moderne, visionnaire dans le traitement de la virtuosité, dans les nouvelles harmonies qu'il employait, des sonorités un peu plus qui tiraient un peu vers le populaire, vers la guitare, vers les influences hispaniques. Et comment en fait montrer à quel point il était moderne? Ben, en fait, j'ai trouvé que finalement Ligeti, 250 ans après, il y a eu un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'il a pris le clavecin avec toutes les connotations qu'on a justement de clavecin d'instrument baroque, et il l'a emmené complètement ailleurs, avec par exemple la pièce Continuum, qui est assez célèbre, qui est sûrement une des pièces les plus difficiles de clavecin, où il marque justement qu'il faut jouer le plus vite possible, donc ça dit bien l'enjeu, et qui veut créer une sonorité qui dépasse un peu le clavecin finalement. Donc c'est vrai que je trouve ces ponts entre baroque et musique plus proche de nous, ça éclaire vraiment le clavecin sous un nouvel angle.
Et vous avez déjà fait des études de piano?
Oui.
C'est tout au début?
Tout au début et puis tout au long en fait. J'ai commencé par le piano, mais très peu de temps après j'ai fait du clavecin vers l'âge de 9 ans. Et en fait j'ai un peu toujours pratiqué ces deux instruments. C'est un peu voilà, mes deux jambes on va dire. Et jusqu'au conservatoire de Paris où j'ai fait les deux classes. Il y a eu une petite période où j'ai fait un peu plus de clavecin parce que ma carrière s'est développée vraiment à travers le clavecin. Mais là justement je reviens un peu au piano et justement dans mon dernier disque j'ai enregistré une pièce au piano à la fin, l'hommage à Rameau de Claude Debussy. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil aussi à mon parcours de me voilà, montrer un peu en tant que pianiste aussi.
Et comment vous êtes venu au clavecin justement à l'âge de...
De 8-9 ans. Et en fait j'ai entendu alors c'était pas vraiment un concert en fait, c'était à la fac d'Angers où ma mère est prof. Et en fait, tout simplement, j'attendais qu'elle termine son cours. Et il y avait une intervention dans le hall de la fac, je me souviens très bien, d'un musicien. Il y avait un clavecin, et puis il jouait un peu, il expliquait, il montrait comment ça marche, comment la corde est pincée. Et ça m'a vraiment fasciné comme instrument, comme sonorité, comme répertoire. Et puis voilà, j'arrivais pas à m'en défaire. Donc à force d'en parler à mes parents, j'ai fini par les convaincre. Et donc une année après, j'ai commencé au Conservatoire d'Angers, qui est ma ville natale.
Et le fait de jouer en même temps parallèlement le piano et le clavecin, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Vous devez vous conditionner particulièrement pour un instrument à l'autre?
Alors, c'est vrai que de loin, on se dit qu'il n'y a pas énormément de différence, instrument à clavier, etc. Mais en fait, c'est deux instruments très très différents. Voilà, le piano, c'est des cordes frappées, il y a une notion de poids à gérer, de comment on va réussir à modeler le son, à faire du legato. Et le clavecin, c'est un instrument à cordes pincées, où le challenge, ça va être un peu d'adoucir les attaques, d'amener de la rondeur, de la résonance. Et donc c'est vrai pour moi, en fait, je l'ai vraiment abordé comme deux instruments très différents. Et je me souviens, quand j'étais petit au début, c'est vrai que je mélangeais un peu les deux. C'est-à-dire que je timbrais un peu trop au clavecin alors qu'il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'on cherche plutôt à arrondir. Et au piano, j'allégeais trop, donc ça sonnait plus. Enfin voilà, c'est vraiment deux instruments très différents. Après, ça fait tellement longtemps que je fais les deux, que par exemple, dans une journée de travail, quand je suis chez moi, en général, je commence avec un peu de piano, je fais du clavecin, puis je peux revenir au piano. Enfin, l'adaptation est assez rapide, parce que un peu, voilà, je suis très habitué à passer de l'un à l'autre. Mais dans ma tête, je pense que c'est presque aussi différent que si je faisais du violon et de la flûte, quoi. Vraiment, j'essaye de dissocier complètement. À part qu'on met des mains sur un clavier, mais finalement, c'est le seul point commun.
Mais il y a aussi, enfin, quand on dit piano, il y a aussi le piano historique
Ouais.
aujourd'hui qui se développe beaucoup, il
C'est
y a
ça.
le piano forte, etc. Et ça aussi, c'est très différent, donc.
Ouais, mais je pense que. Alors après, il y a évidemment des points communs d'équilibre de la main, de gestion de la virtuosité, mais bah, c'est vrai que dans le piano forte, le début du piano forte, donc on va dire le piano classique de Mozart, Haydn, du John Beethoven, c'est un peu entre les deux en fait, parce qu'il y a le clavier extrêmement léger, donc comme un clavier de clavecin, hein, il y a quasiment pas plus de poids, et en même temps dans l'émission du son avec ces petits marteaux tout frêles en fait qui vont frapper les cordes, il faut justement trouver cette rondeur qu'on cherche au piano, et voilà cette manière d'amener un poids et une souplesse. Donc c'est un peu entre les deux. Et puis évidemment, plus le piano évolue, plus on va se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de piano moderne. Enfin, donc justement, dans ce disque Rameau, j'ai enregistré le Debussy sur un Erhard de 1891. Donc en fait, là, c'est assez étonnant comme piano, parce qu'il y a. En fait, ce que j'ai surtout trouvé différent sur ce piano, c'est la pédale, qui est pas du tout c'est pas du tout la même technique de pédalisation qu'on fait sur un piano moderne. Elle est un peu plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'infimes nuances de pédalisation qu'on peut mettre. On peut la tenir un peu plus longtemps aussi, parce que ça résonne un tout petit peu moins que les grands grands pianos modernes où ça tourne vite et puis il y a ces harmonies qui se percutent un peu trop vite. Tandis que là, sur ce Erhard, elle pouvait un peu coexister sans changer énormément la pédale en la coupant complètement. Donc voilà, par exemple, sur ces pianos un peu fin 19e, voilà, je vais y arriver. C'est surtout la pédale qui change, mais c'est vrai qu'après, à chaque époque, il faut un peu essayer de comprendre l'esprit du piano et puis d'adapter sur quelques facteurs sa technique.
Eh ben, on va parler maintenant de votre dernier disque, La famille Rameau. Donc là, vous êtes. Moi, je trouve que vous êtes très curieux parce que là, à chaque fois, vous amenez quelque chose de très différent de ce qu'on faisait avant. Alors là, maintenant, Famille Rameau, ben, évidemment, on connaît Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Rameau, le grand Rameau, mais après, Jean-François, Claude François, Lazare. Et vous avez ajouté Jean-François
Après,
qu'après.
ouais.
Alors comment vous avez trouvé tout ça?
Alors c'est vrai que j'ai, en fait, mon point de départ, c'était vraiment Jean-Philippe Rameau, parce que je trouve que c'est un compositeur absolument génial pour clavecin, qui a écrit des pièces merveilleuses. Et en fait, moi, j'aime toujours bien, comme vous dites, chercher un peu autour. Ça commence tout simplement par des recherches toutes simples sur Internet. Qui était son père, où est-ce qu'il est né, est-ce qu'il a travaillé avec tel ou tel musicien, il était au service de qui, enfin, voilà. Et donc progressivement, j'ai vu qu'il y avait ce réseau, entre guillemets, de compositeurs de sa famille autour de lui. Donc son père était organiste. Alors, on n'a pas de musique qui reste de lui, mais j'ai vu que son frère était musicien, que son neveu était musicien. Donc son frère c'est Claude, son neveu c'est Lazare, que son fils Claude-François était musicien aussi. Et je me suis dit, ben, il y a forcément de la musique d'un de ceux-là quelque part. Et donc j'ai trouvé Lazare Rameau et Claude-François Rameau sur internet, sur le site numérisé de la BNF. Mm-hmm. Et Claude Rameau, mais j'avais rien trouvé. Et justement, je suis quand même allé à la BNF en essayant de chercher un peu. Et donc, j'ai trouvé une cantate dans laquelle il y a ce petit minuet que j'ai enregistré. Et donc voilà, et c'est vrai que je trouve que c'est... Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est les grands génies oubliés du baroque, parce que je pense que même eux ne s'imaginaient pas du tout comme ça. Mais je trouve que ça donne une perspective un peu justement à dans quel milieu Jean-Philippe Rameau a évolué. Et finalement, ça montre à quel point aussi il a complètement... Enfin, qu'il a un véritable génie, ce qui n'est pas forcément le cas des autres membres de sa famille. Mais donc voilà, c'était un peu le portrait de famille. Et je trouve, par exemple, Lazare Rameau, on entend très peu de style classique au clavecin. Et c'est un drôle de mélange, parce que c'est vraiment des sonates pour clavecin. Et en même temps, c'est en 1788, donc c'est juste avant la Révolution. C'est complètement classique dans l'écriture. On sent vraiment qu'il a beaucoup... jouer les sonates de Haydn, de Mozart, enfin là, c'est
parce
très...
qu'il est contemporain, mais pas fait de Mozart.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est...
Né en 1757, mort en 1794.
Ouais, c'est quasiment les mêmes. Et voilà, sauf que lui avait évidemment l'héritage français du clavecin et le pianoforte n'était pas encore très présent en France, et donc il a adapté ce style nouveau qui venait justement de Mozart, de Haydn, etc. au clavecin, donc ça fait un mélange assez étonnant entre la modernité apportée par le classique et puis l'héritage du clavecin. Donc voilà, c'était justement un peu l'idée de mettre Rameau en contexte dans son époque.
Mm-hmm. Alors maintenant, donc, ensemble le consort, vous êtes hyper actif parce qu'on vous voit très souvent, même pendant cette période peu différente. Alors comment ça se passe avec... là, votre dernier disque avec le consort, c'est avec Eva Zatik, Royal Handel, et voilà, comment vous jouez ensemble?
Bah oui, c'est vrai qu'on tous les ensembles traversent des périodes compliquées en ce moment, hein. Donc c'est vrai que nous on a eu la chance d'avoir quelques concerts maintenus en captation à Royaumont, à la Banque de France, où voilà, on a quand même pu à travers les écrans essayer de retrouver un peu notre public. Et puis effectivement, on a fait des enregistrements. Donc le Royal Handel qui est sorti en janvier dernier, on l'a enregistré en juin à la sortie du tout premier confinement. Et c'était justement assez intense comme sensation, parce que personne n'avait joué avec d'autres gens pendant ces deux mois et demi. Et puis voilà, on a fait cet enregistrement, répétition et enregistrement dans la foulée. Et voilà, on essaye de s'adapter un peu comme on peut, de travailler sur l'avenir. On a fait un autre enregistrement purement instrumental le mois dernier. Travaille sur des projets pédagogiques, sur des futurs programmes. On continue de répéter, évidemment. Et puis voilà, on essaye de se tenir prêt pour que quand on a l'autorisation de retrouver le public, parce que nous, c'est notre seule envie, hein, finalement, de jouer de nouveau. Je pense que le public aussi, voilà. Donc tout est un peu en pause, en hibernation. Mm-hmm. Et puis voilà, on espère que ça va vite s'améliorer.
Donc vous avez un programme que nous allons entendre les salles
c'est un peu ce qu'on a décidé de faire et en s'adaptant. On devait enregistrer au tout début de l'été un nouveau disque instrumental de sonates en trio vénitiennes autour de Vivaldi et puis de compositeurs complètement oubliés aujourd'hui, donc on a réenregistré les sonates pour la première fois, et donc on devait l'enregistrer au début de l'été. Et puis finalement, on a eu beaucoup de concerts annulés en mars. Et donc on s'est dit, ces jours de libre qu'on a, est-ce qu'on n'en profiterait pas justement pour enregistrer ce programme et qu'il soit disponible l'été? Donc en fait, on a un peu changé. En pariant sur le fait que cet été, les concerts vont pouvoir avoir lieu, on a justement programmé ce nouveau programme de sonate en trio vénitienne. Et on espère avoir le disque à ce moment-là pour faire la sortie et puis faire découvrir au public ce compositeur Reali, qui était l'exact contemporain de Vivaldi, quasiment à 3 ans près. Ils ont eu le même parcours, violoniste, compositeur, pédagogue, tous les deux. Et ils ont écrit tous les deux un premier opus de sonate en trio. Vivaldi est devenu Vivaldi. Et Reali, pourtant, était très prometteur, parce que ces sonates en trio sont vraiment extrêmement originales. très virtuose pour le violon aussi. C'est très très contrasté, c'est de la très très belle musique. Donc on a fait un peu un double portrait comme ça, Vivaldi, Reali. Et c'est à Venise au tout début du XVIIIe siècle, c'est 1705 et 1709.
Ok, bon, on va vraiment croiser les doigts et
Ouais,
on va toucher
ouais.
le bois
Toucher du
aussi.
bois, ouais.
Merci beaucoup.
Merci Victoria.